Évangile de Jean, chapitre 6. Jean, chapitre 6, nous lisons à partir du verset 60. Jean, chapitre 6, verset 60, la Bible dit ceci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» La parole que le Seigneur venait d'annoncer a semblé être dure pour tous ceux qui l'ont reçue de façon charnelle, parce que le Seigneur disait que celui qui ne mange pas ma chair ne peut pas être sauvé, ne peut pas hériter du royaume des cieux. Et le Seigneur va justifier cette parole-là par la suite. Donc je relis au verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ?» Simon Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Amen. Une parole que le Seigneur va annoncer va emmener en quelque sorte une division entre lui-même et certains de ses disciples et entre les disciples eux-mêmes. Mais le Seigneur dit, les paroles que je dis sont esprit et vie. Ce qui veut dire que si vous prenez les paroles telles que je vous les ai annoncées de façon brute, vous n'allez pas comprendre le véritable sens, puisque je parle d'une façon spirituelle. Alors, certains de ses disciples vont quitter le Seigneur parce qu'ils estiment que la parole qu'il vient d'annoncer est trop dure. Comment peut-il dire qu'on doit manger sa chair? Nous ne sommes pas des cannibales. Comment allons-nous manger sa chair pour pouvoir hériter du royaume des cieux? Et certains disciples vont partir et les 12 vont rester. Alors le Seigneur, en quelque sorte, va inciter les 12 à aussi à quitter. Il dit, mais vous, pourquoi vous restez? Lorsqu'on entend ces paroles, on pourrait dire, mais le Seigneur ne voulait pas que ses disciples restent aussi. Pourquoi il les incite à partir? Et Pierre va répondre, Seigneur, mais nous allons aller où? Qu'est-ce qu'il y a de mieux que toi? Puisque les paroles de la vie se trouvent chez toi. Ça, nous le savons. Ça ne veut pas dire que les disciples, les 12 qui sont restés, avaient réellement compris ce que le Seigneur voulait dire lorsqu'il a dit « Celui qui ne mange pas ma chair ». Ils étaient tous au milieu des autres disciples et ils n'avaient peut-être pas compris de façon exacte ce que le Seigneur a voulu dire. Mais Pierre dit « Nous savons que tu as les paroles de la vie et bien plus encore, nous avons cru en toi. Nous avons cru que tu es le Christ, que c'est toi qui es le Messie. C'est la raison pour laquelle nous restons. » Ils n'avaient pas tout compris. Mais ils avaient cru en la personne de Jésus-Christ. Aujourd'hui, lorsque on demande à une femme pourquoi elle doit être soumise à son mari, de façon spirituelle, elle ne saura peut-être pas tout expliquer. Mais elle sait qu'elle doit être soumise à son mari parce que Dieu le lui demande. Alors, par amour pour son Dieu, parce qu'elle a cru à son Dieu, elle a aussi cru que les paroles sont vraies. Même si elle ne comprend pas tout dans ce que Dieu lui demande de faire en termes de soumission, mais puisque Dieu le demande, elle croit et elle l'applique. Amen les sœurs. Dieu dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il doit être prêt à se sacrifier pour elle. Alors il y a des hommes qui vont ne pas toujours comprendre en se disant, mais ma femme est trop impolie, elle est trop insoumise, comment moi je vais l'aimer comme Christ a aimé l'Église? Mais il n'a pas le choix, parce que Dieu n'a pas conditionné cet amour-là. Il n'a pas dit à condition que ta femme te respecte. Marie aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Alors l'homme, par amour pour son Dieu, même s'il ne comprend pas exactement tout ce que Dieu lui demande de faire, mais parce qu'il a cru au Fils de Dieu, il l'applique tout simplement. Il y a beaucoup de choses dans la Bible dont nous ne comprenons pas tout. Mais nous appliquons tout simplement parce que nous croyons que Dieu a raison. Quand le Seigneur dit que si on te gifle d'un côté, tant l'autre joue. Humainement parlant, on va dire maintenant, si je me laisse gifler deux fois, il risque de recommencer tous les jours et m'embêter tous les jours si je me laisse faire. Mais la logique de Dieu nous montre que c'est comme ça que Dieu va se manifester. Alors même si on ne comprend pas tout, les phénomènes spirituels, comment les choses vont se faire spirituellement pour que Dieu intervienne, on se soumet parce que nous croyons en Dieu. Et les disciples étaient dans cette configuration. Ils n'avaient certainement pas tout compris dans les paroles de Jésus. Lorsqu'il a dit, celui qui ne mange pas ma chair ne peut pas être digne, n'est pas digne de moi. Mais Pierre a dit, nous avons cru que tu es le Christ. Ce qui nous montre, bien aimé, que l'unité qui existait à cette époque-là, entre Jésus-Christ et ses disciples, et entre les disciples eux-mêmes, était la foi autour de Jésus. Ils étaient tous là, non pas parce qu'ils se connaissaient, non pas parce qu'ils s'aimaient d'une autre vie. Ils étaient tous là à cause de Jésus. Nous ne sommes pas tous dans ce lieu-là parce que nous sommes issus de la même famille. Il y a des blancs et il y a des noirs. Mais nous sommes là à cause d'une personne, à cause de Jésus. C'est le nom de Jésus qui nous a réunis dans ce même lieu. Et les disciples étaient autour de Jésus parce que, apparemment, ils avaient tous cru que celui-ci était le Messie. Autrement dit, ses paroles étaient vraies. Mais on voit qu'à un moment donné, certains de ses disciples ont douté de la parole du Seigneur. Et ce qui a automatiquement causé une division, une séparation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des divisions, il y a des séparations entre les enfants de Dieu. Parce qu'il y a quelques-uns, quelquefois, qui régressent dans la foi, qui retournent dans le monde, et par conséquent ne s'entendent plus avec les autres chrétiens. On trouve des excuses, on prie trop, et on prêche que sur le péché. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a plus l'entente entre les enfants de Dieu, parce que certains ne sont plus en parfaite communion eux-mêmes avec le Seigneur. Et c'est ce qui crée la division, et c'est ce qui a créé la séparation entre ses disciples à cette époque-là. Pierre a dit, nous sommes là parce que nous croyons que tu es le Messie. Par conséquent, même si on ne comprend pas tout, on sait que tes paroles sont vraies. Et ceux qui ont douté, ceux qui n'ont pas accepté la parole du Seigneur, ben, ne pouvaient plus demeurer à ce moment-là avec les autres chrétiens. Ce matin, nous allons parler de l'entente entre enfants de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous puissions évoluer et marcher ensemble selon la volonté de Dieu? Comme je l'ai dit, on ne se connaissait pas autrefois. Nous sommes réunis ici uniquement parce que nous avons rencontré le même Seigneur, Jésus-Christ. Et cette entente qui doit exister dans l'Église entre les enfants de Dieu, c'est cette même entente qu'on retrouvera dans les familles et dans nos amitiés en tant que chrétiens à l'extérieur de ces bâtiments-là. Je dis souvent qu'une Église qui est en bonne santé passe d'abord par des familles en bonne santé. On peut tous se réunir ici, mais si dans nos maisons, nous ne sommes pas dans l'unité selon Dieu, alors le nombre que nous faisons ici n'aura aucune influence spirituelle. Parce que la force ne tient pas compte du bâtiment, mais tient compte du fait que nous soyons réunis en assemblée, en église, pour le même Seigneur. Mais cette unité, elle doit être parfaite en commençant d'abord dans nos demeures. Alors les conseils qu'on va se donner ce matin, qui sont valables entre enfants de Dieu dans ces locaux, doivent être valables aussi entre mari et femme, entre amis chrétiens, ça doit être le même fondement qui va garantir notre entente. Lorsqu'on ne s'entend pas, qu'on ne s'entend plus, c'est que quelque part les points de vue divergent en fonction de ce que l'on comprend ou de ce qu'on veut comprendre de la parole de Dieu. Il nous est peut-être arrivé de connaître des chrétiens qui étaient zélés et de voir que dans leur refroidissement, finalement, on a du mal à dialoguer, on a du mal à s'entendre parce qu'on ne parle plus le même langage, l'entente n'est plus là. Or, la volonté de Dieu, dans Jean chapitre 17, Jésus-Christ a dit, Père, ma prière, c'est qu'ils soient un, c'est qu'ils soient unis. Comme moi, je suis un avec toi, c'est que mes disciples soient unis. C'était ça la prière du Seigneur, c'était ça la volonté de Dieu. Quand on parle de volonté, on parle quelque part d'un testament. C'est ça le testament. Donc dans la prière du Seigneur, c'était que l'unité, il y ait l'unité au milieu des enfants de Dieu. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a la division, que ce soit dans les couples, qu'il y a la division dans l'église, ça montre tout simplement que nous sommes passés à côté de la volonté du Seigneur. La dernière volonté est souvent celle qui manifeste le désir profond de la personne. Les derniers mots qu'on en exprime, c'est ce qu'on considère comme étant très important. Et dans la dernière prière du Seigneur, dans Jean 17, il a dit « Père, ce que je veux, c'est qu'ils soient unis, c'est qu'ils soient un, comme je suis un aussi avec toi. » Nous lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 2. Le Seigneur, dans le verset 63 que nous avons lu, il dit clairement que ses paroles sont esprit et vie. Lorsque l'on parle de vie, on parle forcément d'actes. La vie se traduit par des actes. On ne peut pas dire je suis vivant et je reste dans le même endroit constamment sans rien faire, sans parler, sans rien produire. Donc dans une vie, il y a du mouvement. Il y a des actes qui sont posés, il y a des paroles qui sont dites. C'est tout ça qui montre qu'il y a la vie, c'est lorsque les choses sont en mouvement. Et le Seigneur dit que les paroles que je donne sont vie, donc c'est-à-dire ces paroles-là doivent produire la vie. Et cette vie automatiquement produira des actes. C'est pourquoi l'apôtre Jacques dit que la foi doit être manifestée par des œuvres. Il dit, moi je vais te montrer la foi avec les œuvres. Donc la vie que nous avons choisie dans le Seigneur va automatiquement être manifestée par des actes qui vont montrer la nature même de Jésus-Christ. Comment a-t-on appelé les chrétiens pour la première fois? On les a appelés chrétiens parce que leur manière de vivre correspondait à Jésus-Christ. Donc en les voyant vivre, en les voyant faire les choses, on a constaté qu'ils étaient comme Jésus. C'est comme ça qu'on les appelait chrétiens. Donc lorsque le Seigneur dit que mes paroles sont vie, c'est-à-dire que mes paroles sont censées produire une vie qui doit me ressembler moi, qui doit qualifier et refléter les paroles que je vous donne. Mais il dit ces paroles sont aussi esprit. C'est-à-dire, ces paroles sont aussi spirituelles, puisqu'il s'adresse désormais à des êtres spirituels. Donc, dans notre vie, telle que nous vivons aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, il doit y avoir la vie de Jésus et l'esprit de voir les choses de façon spirituelle, qui nous aide à comprendre et à voir les choses comme le Seigneur voudrait qu'on puisse les comprendre et surtout les vivre. Dans Acte 2, au verset 42, au verset 41. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Nous prenons aussi, nous reviendrons sur Acte 2, Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, nous lisons à partir du verset 1er. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce contre vous, enfants d'Israël, contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai choisi, vous seuls parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être concertés? Dans d'autres versions, c'est sans s'être convenus. Le lion rugit-il dans la forêt sans avoir une proie? Le lionceau pousse-t-il des cris du fond de sa tanière sans avoir fait une capture? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre sans qu'il y ait un piège? Le filet s'élève-t-il de terre sans qu'il y ait rien pris, rien de pris? Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante? Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le lion rugit, qui ne serait effrayé? Le Seigneur, l'Éternel parle, qui ne prophétiserait? Voilà la parole de Dieu. Et nous en reviendrons après dans Actes chapitre 2. Dans Amos chapitre 3, le Seigneur va donner une succession de paroles qui sont des paroles évidentes. Il parle pour reprendre son peuple. Son peuple qui s'était une fois de plus détourné de lui. Alors le Seigneur s'apprêtait à donc sanctionner ce peuple-là. Et il va exhorter le peuple de façon logique. Il dit, est-ce que un piège peut fonctionner s'il n'y a rien de pris? Logiquement que le piège va fonctionner s'il y a une proie qui a été saisie. Est-ce que le lion, quand il rugit, qui ne va pas être effrayé? Tout homme, s'il a affaire à un lion en face de lui, la peur sera là automatiquement. Et il dit, mais est-ce que deux hommes peuvent marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus? Donc le Seigneur est en train de dire, mais mon peuple, moi je vous ai choisi. C'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai fait sortir de l'Égypte. Dieu a donné toutes sortes de recommandations à son peuple pour que le peuple puisse marcher avec lui. Mais voilà que le peuple, peu de temps après, marche dans la désobéissance. Donc le Seigneur est en train de leur dire, mais on ne peut pas marcher ensemble si nous ne sommes pas en accord. On ne peut pas marcher ensemble, on finira toujours par se séparer à un moment donné. Ce qui est une évidence et qui est totalement logique. Si aujourd'hui, tu décides de faire la route avec une personne pour te rendre à un endroit qui est simplement dans ta tête et tu penses que on s'était convenu ou qu'on était d'accord sans avoir discuté, à un moment donné, vous arrivez au carrefour, toi, tu dis, on va à gauche. Il dit, non, on va à droite. Oh, mais toi, tu vas où? Mais non, mais moi, je vais là-bas. Ah, mais je pensais que tu allais là-bas. Oui, mais on n'avait pas discuté avant. On ne s'était pas mis d'accord. Donc, forcément, à un moment donné au carrefour, il y aura séparation. Et lorsque on marche les uns avec les autres, sans s'être concerté, sans s'être convenu, à un moment donné, il y aura séparation. Que ça soit dans l'église, que ça soit dans les couples, si à un moment donné, nous ne sommes pas d'accord sur la logique dont la maison doit fonctionner, il y aura forcément séparation. On doit se convenir, on doit se mettre en accord. Et ça, ça passe par du dialogue. Ça passe par du dialogue, ça passe par de l'amour, ça passe par de l'amitié, ça passe par de l'échange. Donc c'est en maintenant cette forme de vie-là qu'on va pouvoir se convenir pour être sûr d'être constamment sur la même voie. Mais si on n'exprime pas, si on ne dit pas les choses, si on ne manifeste pas ce que l'on pense, à un moment donné, l'autre prendra une option qui ne te plaira pas parce que dans ton cœur, tu avais d'autres pensées et c'est là où viennent les séparations. Mais pour nous, enfants de Dieu, le Seigneur nous a facilité cette marche-là en nous donnant les Écritures qui nous permettent à chacun de nous humilier devant la parole de Dieu et d'avoir pour objectif commun de pratiquer la parole. Ainsi, même si je suis de tradition différente, de culture différente, d'origine différente, puisque étant désormais enfant de Dieu, j'ai renoncé à tout ce qui est passé pour marcher selon la parole de Dieu, nous avons désormais un terrain d'entente. Mais si dans notre marche, à un moment donné, je dis, mais écoute-moi, dans mon pays, ça se passe comme ça. Toi, tu me diras, oui, mais chez moi, ça se passe comme ça. On va tout simplement se séparer. Mais si je renonce à ce qui se passe dans mon pays et que tu renonces à ce qui se passe dans ton pays pour épouser la parole de Dieu, alors nous aurons de quoi nous maintenir dans la même voie. Dieu nous a donné les Écritures afin que chacun d'entre nous, nous soumettant à la parole de Dieu, nous ayons le moyen de continuer à marcher ensemble. L'une des difficultés et l'une des réalités dans lesquelles nous sommes, c'est que ce qui nous emmène quelquefois à nous séparer, c'est lorsque les choses matérielles prennent le dessus sur le spirituel. Le Seigneur a dit, mes paroles sont esprit et vie. Je parle de façon spirituelle, parce que nous sommes désormais nés de nouveau et nous sommes des hommes spirituels. Donc la vie d'un chrétien ne doit pas être régie par les choses de la terre, mais doit être régie par les choses spirituelles. Ce sont les choses spirituelles qui doivent commander les choses de la terre. Mais si spirituellement, nous ne sommes pas en accord et que notre vie est dirigée uniquement par les choses de la terre, par les choses matérielles, à un moment donné, on va se séparer, puisque l'homme est éternellement insatisfait. Donc les choses de la terre qui dirigent ta vie ne pourront jamais te rassasier. À un moment donné, ça ne suffira pas. Alors si tu attends de ton mari qu'il remplisse les choses uniquement matérielles pour te satisfaire, ça ne pourra jamais te satisfaire, il manquera toujours quelque chose. Si tu attends de ta femme qu'elle soit simplement parfaite dans le ménage ou dans la cuisine, à un moment donné, ça sera imparfait. Ça ne marchera pas et c'est ça qui va amener la division. Mais si tu attends de ton mari qu'il soit avant tout un homme spirituel, si tu attends d'abord de ta femme qu'elle soit avant tout une femme spirituelle, là vous avez désormais les moyens pour savoir comment gérer tout le reste. Mais ce qui nous sépare, c'est qu'à un moment donné, tel va être dans le domaine spirituel, l'autre partie va être dans le domaine matériel. Et on ne s'entend plus. Et le Seigneur dit que deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas convenus. C'est là l'origine de beaucoup de séparations que nous pouvons vivre dans l'Église et de beaucoup de querelles que nous pouvons vivre dans les couples. Dans Actes 2 que nous avons lu, la Bible nous dit que ceux qui avaient accepté la parole se sont automatiquement ajoutés à ceux qu'ils avaient reçus avant. Et la vie qu'ils vivaient ensemble était le mode de vie que Jésus-Christ avait laissé à ses disciples. Ainsi, les disciples eux-mêmes persévéraient dans ces enseignements-là que le Seigneur leur avait laissés. Quand on parle qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres était basé sur les enseignements de Jésus. Donc, ils persévéraient dans les enseignements selon ce que le Seigneur leur avait laissé. Et le mode de vie qu'ils avaient adopté, c'était par ce mode de vie-là qu'ils maintenaient leur unité. C'est qu'ils avaient tous le même objectif. Ils avaient tous les mêmes projets. Et par conséquent, la Bible nous dit, nul ne disait que ses biens étaient à lui. C'est-à-dire qu'ils avaient intégré totalement l'unité selon Dieu, la famille selon le Seigneur. Par conséquent, ils avaient un seul langage et ils avaient un seul projet. Quand nous vivons ensemble dans la même maison, vous allez voir quelquefois, le mari a le projet à sa retraite, il commence déjà à construire dans son pays d'origine. Mais sa femme n'est pas du même pays que lui. Elle aussi achète un terrain aussi dans son pays d'origine. Alors, lorsque les choses sont ainsi, est-ce qu'il y a l'unité? Il n'y a pas l'unité. La Bible dit que lorsqu'on se marie, on devient une seule chair. Alors comment avoir des objectifs et des projets dans deux pays différents? Forcément, à un moment donné, ça va créer une séparation. Ça va créer de la discorde. Le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Les apôtres avaient un seul chef. Et ils avaient accepté de marcher, tous les disciples avaient accepté de marcher selon le mode de vie que le Seigneur leur avait laissé avec les autorités des apôtres qui étaient là. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Alors, premièrement, la condition pour qu'on puisse s'entendre, c'est déjà que nous soyons nés de nouveau. Lorsque tu marches avec une personne qui n'est pas convertie, tu as le sentiment quelquefois de ne pas comprendre, qu'elle ne comprend pas ce que tu entends de lui dire. Et effectivement, puisque les paroles du Seigneur sont esprit et vie. Donc, lorsque l'un d'entre nous n'est pas réellement, son cœur n'est pas réellement à Dieu, l'entente va être difficile. La cohabitation va être difficile. Parce qu'on ne va pas parler le même langage. Lorsqu'on parle de prier, l'autre va dire on prie trop. Lorsqu'on va dénoncer le péché, l'autre va dire on parle trop du péché. Mais est-ce que le péché, Dieu le dénonce ou pas? Il le dénonce. Alors même si c'est chaque jour qu'on dénonce le péché, où est le mal? Puisque nous sommes dans les Écritures. Donc ceux qui avaient accepté la parole avaient accepté de rejoindre ceux qu'ils avaient reçus avant eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en rejoignant le groupe qui avait reçu la parole avant nous, on accepte aussi ces conditions. On ne peut pas dire, je vais devenir chrétien et je n'accepte pas tout ce que Dieu dit. Pourquoi dans ce cas être devenu chrétien? C'est parce que nous avons médité, parce que nous avons cru dans le Seigneur et même si on n'a pas tout compris, on a cru en sa parole. Et on vient au Seigneur en acceptant de nous soumettre entièrement à sa parole. Être né de nouveau, puisque la parole de Dieu s'adresse à des hommes spirituels. La Bible nous dit qu'ils persévéraient ensemble dans l'enseignement des apôtres. L'enseignement, c'est ce que nous transmettons aussi d'une certaine manière à nos enfants, concernant les réalités de la vie, concernant les réalités bibliques. Donc par l'enseignement, nous faisons aussi l'éducation de nos enfants. Nos enfants vont grandir et vont être des adultes, faits, des adultes formés, en fonction de ce qu'on leur a transmis aussi en termes d'enseignement. Si l'enfant a reçu l'enseignement que c'est lui le chef, que tout ce qu'il dit, on doit dire oui, que tout ce qu'il veut, on doit dire oui, il va grandir et il va finir par embêter tout le monde dans la société parce qu'il va être un enfant gâté et pourri, comme on dit, à qui il faut toujours dire oui. Et c'est la raison pour laquelle des enfants ne respectent pas les professeurs, puisqu'il est le chef à la maison. Comment ne sera-t-il pas aussi le chef à l'école? Et beaucoup d'enfants se font renvoyer parce qu'ils ont toujours eu l'habitude qu'on leur dise oui et ils ne comprennent pas que le professeur dise non. Alors par l'enseignement, en fonction de ce qu'on va donner, c'est ce qui va former l'enfant et qui va faire de lui ce qu'il sera par la suite. Donc l'enseignement a pour objectif de nous donner une éducation. Donc ces disciples-là se réunissaient autour des Écritures et autour des enseignements des apôtres pour recevoir la même éducation en tant qu'enfants de Dieu. Puisque enfants de Dieu, nous sommes devenus tous enfants du même Père. Et notre Père qui est Dieu ne peut nous enseigner que de la même manière parce qu'il ne fait du favoritisme avec personne. Et l'enseignement qu'il a jugé bon pour les apôtres, c'est cet enseignement qu'il juge bon pour nous. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire que nous puissions marcher dans l'entente? C'est que si nous acceptons de persévérer dans le même enseignement. Mais si aujourd'hui, tel décide de marcher avec la Bible, mais que toi tu décides de marcher avec les livres ou bien tout ce que tu peux lire sur Internet, tu te fais ta propre éducation, à un moment donné, ça ne marchera pas. Parce qu'on n'aura pas la même éducation et on n'aura pas la même compréhension des choses de la vie. Donc qu'est-ce qui va garantir notre entente? C'est la soumission que chacun d'entre nous va accepter de vivre en ce qui concerne la parole de Dieu. Dans l'église comme dans les foyers. Il y a des gens dans les foyers des couples où certains rappellent toujours ce que les parents lui ont dit, rappellent toujours ce qu'il a appris à l'école, mais dès qu'on parle de la Bible, non, tu parles trop de la Bible. Mais si on ne parle pas de la Bible, on va parler de quoi finalement? Si ce n'est pas la Bible qui nous dicte notre manière de vivre, comment allons-nous nous entendre? Parce que argument pour argument, tout le monde a raison. Vous savez, quand vous écoutez les politiciens, que tu sois de droite, de gauche, du milieu, d'en haut ou d'en bas, quand tu écoutes la façon dont il te démontre les choses, tu as envie de dire qu'il a raison. Tu écoutes l'autre aussi, il donne ses arguments, tu trouves aussi qu'il a raison. Donc chacun dans son argumentation, avec ses propres pensées, il peut aussi justifier sa cause. Et là, par conséquent, tout le monde a raison. Mais donc finalement, si toi tu as raison dans ce que toi tu crois être vrai, moi aussi j'ai raison dans ce que je crois être vrai, la vérité se trouve où finalement? Comment allons-nous trancher si chacun veut rester dans sa position? Chez nous, ça se passe comme ça. Dans mon pays, ça se passe comme ça. Dans mes traditions, ça se passe comme ça. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne suis pas de la même tradition que toi. Je ne suis pas de la même culture que toi. Comment allons-nous maintenant marcher ensemble? En renonçant à tout ça et en acceptant qu'il n'y a qu'une seule vérité, c'est la parole de Dieu. C'est de cette manière-là qu'on va s'entendre. Et lorsque chacun d'entre nous accepte de se soumettre aux Écritures, on ne peut que être sur la même voie, puisque c'est la même parole, c'est le même Dieu. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. C'est ce qui faisait leur unité et la raison pour laquelle ils pouvaient travailler dans le même objectif. Rien n'inventé, rien n'était inventé, mais tout était basé sur la parole de Dieu. On doit accepter que la parole de Dieu est vraie. Même si on ne comprend pas tout. Vous savez, quelquefois, on peut discuter. Et l'une des choses qui est difficile, c'est lorsqu'il s'agit de convaincre l'autre dans ce que la Bible a déjà écrit. Donc, il y a des personnes, tu les reprends avec les Écritures, il y a toujours oui, mais. Mais oui, mais jusqu'où? C'est écrit ou c'est pas écrit? Si c'est écrit, accepte que c'est écrit, soumets-toi. Humilie-toi, accepte que Dieu a raison. Mais l'homme est tellement orgueilleux que lorsque l'un le reprend par rapport aux Écritures, il a l'impression d'avoir affaire à un homme. Tu ne t'humilies pas parce que l'homme t'a donné la vérité en fonction des Écritures. Tu t'humilies parce que tu as vu que c'est Dieu qui a dit. Même si ça sort de la bouche d'un homme, nous reconnaissons que c'est écrit. Alors nous disons amen à la parole de Dieu. Et beaucoup sont tellement orgueilleux qu'ils ne veulent pas accepter la vérité qui sort de la bouche d'une tierce personne. Il faudrait peut-être que Dieu lui parle en vision, Dieu lui parle d'une certaine manière pour qu'il se soumette une fois pour toutes à ce qui est écrit. Personne n'a le monopole de la vérité. La vérité appartient à Dieu. Et si nous acceptons de nous soumettre, c'est de cette manière-là que nous allons pouvoir avancer. C'est pourquoi, bien-aimé, lorsque il y a un conflit, lorsqu'il y a un désaccord, pourquoi discuter longtemps à vouloir prouver? Amène la Bible à ton mari, tu dis, mais écoute mon chéri, tu dis ça, si tu l'appelles mon chéri, tu appelles comme ça, tu viens, tu lui montres, tu dis, c'est écrit ça. Et puis ça s'arrête là. Mais tu veux discuter, tu veux convaincre, entrer dans un débat. Pourquoi débattre lorsque Dieu a déjà débattu à ta place? Lorsque Dieu a déjà parlé à ta place, pourquoi vouloir débattre encore? Tu amènes la parole, tu dis, la Bible dit ceci, ça s'arrête là. Et même l'homme, ça ne sert à rien de rabâcher. Il y a des hommes qui ont l'impression ou qui font des choses comme si la femme était son enfant. Il parle à sa femme comme s'il parle à sa fille. Mais ta femme est aussi une servante de Dieu, un enfant de Dieu, un adulte. Donc on peut aussi exposer les choses en apportant la parole de Dieu, dit, mais la Bible dit ceci. Être l'autorité, ça ne veut pas dire être le lion de la maison. Ça veut dire faire paître le troupeau selon les voies du Seigneur et présenter, comme la Bible nous dit, la femme sans tache, comme le Seigneur présentera à l'église, sans tache ni ride. Donc veiller à l'éducation spirituelle. Donc au lieu de vouloir faire les choses comme si c'est toi qui t'imposais, emmène-la à comprendre tout simplement que c'est Dieu qui a dit. Quand tu donnes les Écritures, tu laisses maintenant la personne à faire avec Dieu. Mais souvent nous voulons contester, nous voulons discuter, nous voulons parlementer. On se transforme en avocat, après on enlève la robe d'avocat, on met la robe du juge. Et puis, ça n'en finit pas. Laisse la personne discuter avec les Écritures. Si tu es juste dans ta cause, laisse le Seigneur te défendre. C'est de cette manière-là, bien-aimé, que nous allons marcher dans l'unité. Il persévérait dans la communion fraternelle. La communion est liée à l'unité. L'unité dans une même foi. L'unité dans une même vision. L'unité dans les mêmes objectifs. Nous sommes en parfaite communion lorsque nous avons le désir de faire la même chose. Et si nous nous considérons comme enfants de Dieu, nous sommes aussi des gestionnaires de tout ce que Dieu nous a confié. Ainsi, dans cette communion-là, le Seigneur reste toujours au centre. Et chacun d'entre nous doit veiller à ce que les projets et les objectifs demeurent des objectifs propres au Seigneur. La Bible nous dit que soit que nous vivons, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Notre vie ne nous appartient plus. Donc aujourd'hui, tous les projets que nous pouvons former, bien-aimés, s'il n'y a pas l'intérêt de Jésus-Christ dedans, alors c'est qu'il y a un problème. Si nous sommes réellement enfants de Dieu et que notre vie appartient désormais à Jésus, il n'y a pas un projet dans lequel le Seigneur ne peut pas être associé. Si dans ton projet, il n'y a pas le nom du Seigneur, l'intérêt du Seigneur qui ressurgit à un moment donné, ça veut dire que c'est un projet qui est purement charnel. Et dans le projet purement charnel, sois certain, bien-aimé, que Dieu ne marchera pas avec toi. Dieu ne marchera pas avec toi. Ce n'est pas parce que ça réussit que Dieu marche avec toi. Vous savez, lorsque Israël est sorti de l'Égypte et qu'ils se sont mis à se rebeller contre Dieu, Dieu a eu la colère vis-à-vis de ce peuple. Il a dit à Moïse, je vais détruire tout ce peuple. Moïse a intercédé. Le Seigneur a dit, ok, je ne vais pas détruire. Allez dans la terre promise. Mais la façon dont le Seigneur s'était exprimé à Moïse pour dire, allez, Moïse sentait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Parce qu'il connaissait Dieu. Il dit, Seigneur, pourquoi tu nous envoies si toi-même tu ne marches pas avec nous? On peut entrer dans cette bénédiction-là. Mais Seigneur, si tu n'es pas avec nous, à quoi ça sert? C'est pour nous dire, bien-aimé, ce n'est pas parce que tes projets fonctionnent à la manière du monde que ça veut forcément dire que Dieu marche avec toi. Je discutais avec une sœur qui est à l'étranger. Elle m'explique une situation dans laquelle elle est. Je lui explique, non, cette situation n'est pas bonne. Tu es dans le péché, il faut arrêter. Elle dit, non, moi, tous mes projets fonctionnent. Dieu m'ouvre des portes. J'ai dit, mais le diable aussi ouvre des portes. Est-ce que les gens qui sont milliardaires, les plus grands milliardaires dans le monde, est-ce qu'ils sont des chrétiens? Ils ne sont pas chrétiens, les plus grands milliardaires. Est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui est favorable avec tout ce qu'ils font? Loin de là. Les gens qui vendent des films malsains, mais ils se font beaucoup d'argent, est-ce que ça veut dire que c'est Dieu qui leur ouvre les portes? Loin de là. Donc ce n'est pas parce que les choses semblent fonctionner que forcément Dieu est d'accord avec toi. On doit revenir à ce qui est écrit pour être en véritable communion. Maintenant, si ton désir à toi, c'est de servir le Seigneur, si ton désir à toi, c'est que dans tout ce que tu fais, Jésus-Christ soit élevé. Et que c'est le même désir pour moi. Alors nous allons aussi être en parfaite communion. Et c'est de cette manière-là que nous allons pouvoir avancer. Et souvent, il y a division. Lorsque tu vois le projet de la sœur, tu vois le projet du frère, et tu viens le reprendre par rapport aux Écritures, le fait que tu ne sois pas d'accord avec ce que lui pense, ce qu'elle pense, tu es devenu comme un ennemi. Tu es devenu comme un ennemi. Il y a des gens qui se sont séparés d'autres uniquement parce qu'on leur a dit la vérité, que ton projet n'est pas un projet de Dieu. Il s'est tout simplement séparé parce que les ambitions qu'il avait n'étaient pas des ambitions qui allaient faire que le nom de Jésus soit élevé. Alors lorsque tu viens lui dire la vérité pour dire que ton projet est charnel, regarde ce que dit la Bible, tu es devenu son ennemi, tu es jaloux. Tu ne veux pas qu'il réussisse ainsi de suite. Là, nous ne sommes pas dans la communion. La vraie communion doit tourner autour d'un projet dans lequel seul Jésus-Christ est élevé à la fin. Si la gloire de Dieu n'est pas manifestée, alors soyons certains, bien-aimés, que c'est un projet qui est charnel. Il doit y avoir la gloire de Jésus-Christ dans tout ce que l'on fait. C'est de cette manière-là qu'on va être dans une bonne communion. Mais lorsque le projet tourne autour de toi, lorsque c'est toi qui es le chef du projet et qui sortira la tête haute de ce projet, si tu marches avec des personnes qui, eux, n'ont que pour seule vision d'élever Jésus-Christ, tu finiras par te séparer de ces personnes-là. Parce que tu auras le sentiment que les personnes veulent t'étouffer, qu'elles n'aiment pas ton projet ou qu'elles sont jalouses de toi, loin de là. Si les choses ne sont pas autour de Jésus, ça ne marchera pas. Mais quand c'est autour de Jésus, quand je sais que ce que tu vas faire va finir par élever mon Seigneur, mais je ne peux que être dans la joie. Je ne peux que être dans l'encouragement. Je ne peux que prier pour que ça marche. Parce qu'à la fin, c'est le nom de Jésus qui sera élevé. Mais si ce n'est pas le cas, il y aura forcément division. Il y aura forcément division, il y aura forcément séparation. Mais c'est pas ce que le Seigneur veut. Il a dit, Père, je prie pour qu'ils soient un. Je prie pour qu'ils soient unis. Et ce qui était la base de l'unité des apôtres à cette époque-là doit être la même base pour nous. C'est de cette manière-là, en imitant ceux qui ont été dans l'unité avant nous, que nous allons pouvoir nous maintenir dans l'humilité, soit dans l'unité, soit dans les couples, soit dans l'Église. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Ils persévéraient aussi dans la fraction du pain. La fraction du pain, dans ce passage-là, est liée à la Sainte Cène. Lorsqu'ils partageaient le pain, lorsqu'ils rompaient le pain dans les maisons, c'était pour s'identifier à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Un chrétien ne doit pas chercher à s'identifier par rapport à l'autre, se comparer par rapport à l'autre, mais il doit être tout constamment dans le regard vis-à-vis de ce que le Seigneur a accompli pour lui. Par le meurtre sûr de Jésus, nous sommes guéris, nous sommes pardonnés parce que le sang de l'agneau a coulé. Il y a des personnes, lorsque elles se sentent mal, elles se sentent loin de Dieu. Elles se sentent comme dans une profonde culpabilité pour une faute qu'elles auraient commise. Elles deviennent désagréables envers tout le monde. C'est comme si l'origine de son mal-être, c'est la faute des autres. Elle ne s'identifie plus au sacrifice que le Seigneur a accompli pour rendre libre, pour libérer totalement. Mais elle se trouve dans une forme de frustration que finalement elle fait ressentir aux autres. Et quelquefois, on se sépare des gens, on ne comprend pas. On te sort toutes sortes d'excuses. Oui, mais ceci, oui, mais cela, tu es là, bouche bée, parce que tu te dis, mais non, attends. C'est pour ça que la personne me quitte. C'est à cause de ça que la personne, décide de ne plus venir à l'église. C'est à cause de ce problème-là que la personne décide de faire chambre à part. Tu as le sentiment, mais que c'est tellement gratuit. C'est comme si la personne avait médité une excuse à tout prix pour se séparer, parce que l'excuse qui est là, c'est une excuse qui ne tient pas. C'est une excuse qui ne tient pas. Mais le vrai problème, c'est que la personne elle-même n'est plus en communion avec Jésus. Et n'étant plus en communion avec Jésus, elle ne supporte plus la présence de tous ceux qui sont dans la vérité. Donc il faudrait que simplement les gens soient au même niveau. Et souvent quand des gens se séparent, elles vont toujours s'associer à des personnes qui auront la même logique qu'elles. Elles n'iront jamais voir des gens qui sont vraiment dans la vérité, parce qu'elles savent qu'on leur amènera. Donc elle va toujours chercher à s'associer avec des gens compatissants, des gens qui comprennent son péché, Des gens qui comprennent qu'elle se plaignent. Oui, mais ça fait quand même longtemps qu'elle souffre. Il faut la comprendre. Mais Dieu, lui, ne comprend pas ça. Le problème, c'est que Dieu ne comprend pas ça. On doit s'identifier en Jésus. Lorsqu'on parle de la Sainte Cène, ça nous rappelle ce que le Seigneur a fait pour nous. Mais ça nous rappelle aussi que le Seigneur revient bientôt. Donc, en fonction du discernement que nous avons, lorsque on parle de la fraction du pain, ça nous aide à rester dans ce qui est agréable à Dieu, parce qu'il revient bientôt. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a un homme qui était mort et qui est revenu à la vie. Et il expliquait le témoignage, il partageait le témoignage des choses terribles qu'il avait vues. Et quand il est revenu à la vie, il dit aujourd'hui, lorsque je sens que la tension monte avec ma femme, je préfère aller m'enfermer dans les toilettes. J'ai tellement peur de pécher que je préfère fuir les disputes parce que ce que j'ai vu là-bas est quelque chose de terrible. Je préfère fuir les choses. Pourquoi ? Parce qu'il a réalisé que les choses arrivent à la fin. Donc, il n'a pas d'autre choix que de se sanctifier. Donc, quand on pense à la fraction du pain, on fait référence aussi au retour du Seigneur. Alors, puisque nous savons que le Seigneur revient, on doit s'efforcer à pratiquer le bien, à faire ce qui est agréable à Dieu. Et forcément, si tu es agréable à Dieu, tu seras aussi agréable avec l'autre. Si tu es selon les attentes de Dieu, tu seras aussi un homme utile pour les autres. Mais lorsqu'on ne s'identifie plus au Seigneur, parce que nous avons des problèmes personnels, et que ces problèmes personnels deviennent un poison pour tout le monde, là nous ne sommes plus dans le discernement. On ne réalise plus réellement ce que le Seigneur a fait pour nous. Dans la mort de Jésus-Christ, il y a la notion du pardon. Par la mort de Jésus, Dieu nous a pardonnés. C'est pourquoi il dit, si vous ne pardonnez pas aux autres, moi non plus je ne vais pas vous pardonner. Qu'est-ce qui fait qu'on se sépare? C'est le manque de pardon. Qu'est-ce qui fait qu'on demeure pendant des jours dans la querelle sans s'adresser la parole dans la même maison? C'est le manque de pardon. Et dans tout cela, même si ça rassasie notre orgueil, la chose la plus terrible, c'est que ça attriste notre Seigneur, qui a dit, Père, je prie pour qu'il soit un. Je prie pour qu'il soit un, comme moi je suis un avec toi. Lorsqu'on s'isole des autres, et qu'on se fait la guerre les uns envers les autres, dans la maison comme dans l'église, mais c'est pour la plus grande tristesse de notre Seigneur. C'est comme si finalement on disait que le sacrifice a été inutile. Le sacrifice a été inefficace. Si Dieu nous a pardonnés, comment on ne pourrait pas pardonner aux autres? Donc lorsqu'on persévère dans la fraction du pain et qu'on discerne réellement ce que le Seigneur a fait pour nous, alors ça va nous aider aussi à pardonner les autres. À comprendre qu'il a porté mes fardeaux à la croix. Il est mort pour moi alors que je ne le méritais pas. Si toutefois tu es convaincu que tu ne le méritais pas. Si tu réalises d'où tu viens, tu réalises que tu mérites la mort, mais que malgré tout, Dieu t'a pardonné, alors tu peux comprendre que le mal que l'autre t'a fait est petit devant le mal que toi tu as fait à Dieu. Alors si Dieu t'a pardonné, nous aussi nous pouvons pardonner. Et les apôtres, les disciples, persévéraient dans cette vie-là. C'est pourquoi ils demeuraient dans l'unité. Beaucoup de querelles que nous retrouvons dans le milieu chrétien ou que nous retrouvons dans les foyers sont souvent liées au manque de pardon. On garde des choses dans le cœur pendant des jours, des fois pendant des mois. Les choses sont dans le cœur, en train de ruminer. Et la personne te dit une chose, tu t'énerves. Ah, la personne dit, mais tu t'énerves à cause de ça? Non, ce n'est pas à cause de ça. C'est à cause de ce qu'il y a depuis des mois qui sont là. Donc la moindre petite chose allume l'étincelle. Parce que le pardon n'a pas été véritable. Et de cette manière-là, on ne peut pas s'entendre. Il persévérait dans la fraction du pain. Et il persévérait aussi dans les prières. Les prières qu'ils faisaient, tout était basé selon la vie que le Seigneur leur avait démontrée. La prière est quelque chose d'important. Parce que la prière nous aide à ne pas oublier les objectifs. Lorsque une entreprise se donne des objectifs en début d'année, tout au long de l'année, ils vont avoir des réunions, peut-être toutes les semaines, Je travaillais à l'époque dans un magasin et là-bas, les objectifs, on devait les revoir chaque matin. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, lorsque tu avais ton temps de pause, tu allais sur l'ordinateur et tu pouvais voir l'année d'avant, le même jour, à la même heure, le chiffre d'affaires que tu avais fait. Et ça te permet de savoir jour après jour si tes objectifs sont toujours en hausse. Donc, ce procédé-là de réunion quotidienne permet à l'entreprise de savoir où est-ce qu'elle en est. Est-ce que les objectifs sont maintenus ou pas? Est-ce que nous sommes sur la bonne voie? Et la prière nous permet de ne pas oublier le pourquoi nous sommes chrétiens. La prière nous permet de ne pas oublier les promesses de Dieu. Donc par la prière, on a constamment le projet devant nous. Si aujourd'hui, tu as le projet peut-être de voyager, mais tu n'as pas les finances, tu mets ça dans la prière. Donc le fait de prier régulièrement pour ça, te rappelle toujours que tu dois voyager. Donc la prière devient comme un pense-bête. Le fait de prier régulièrement nous empêche d'oublier le sujet, d'oublier la raison pour laquelle nous servons le Seigneur. Et donc, en persévérant dans les prières, il n'oubliait jamais les projets et les objectifs de Dieu, puisqu'il se les rappelait constamment dans la prière. Et lorsque nous sommes unis, lorsque nous sommes ensemble et que nous persévérons dans les prières, ça nous rappelle que nous avons les mêmes objectifs. Ça nous rappelle que nous avons les mêmes projets, puisque nous prions régulièrement ensemble pour les mêmes choses. Ça évite de tomber dans des penchants où on va penser à nous-mêmes, où on va penser à nos sujets personnels, mais le fait d'être ensemble et de persévérer ensemble dans la prière, ça nous rappelle que nous avons des objectifs communs. Et c'est ça qui nous maintient dans l'unité. C'est ça qui fait que nous travaillons dans le même but, dans le même projet, puisque nous prions régulièrement ensemble pour ça. La prière est un combat. Certains ont commencé dans les foyers. Une fois, deux fois, on prie ensemble. Après, petit à petit, je prie dans la chambre. Après, je prie au salon. Après, je prie dehors. Après, je prie qu'à l'église. Et je ne prie plus avec ma femme. Je ne prie plus avec mon mari. Je ne prie plus avec mes frères et sœurs. Quand on se voit, c'est que des discussions autour de Facebook, autour de la dernière paire de chaussures, du dernier iPhone. Il n'y a plus de projet commun ensemble. Et c'est ce qui fait qu'un jour, il y a la division. Parce que notre centre de discussion, notre centre de vie est basé uniquement sur les choses de la terre. Le projet de Dieu n'est plus. On a oublié qu'on était spirituel. On a oublié qu'on était chrétien. On a oublié qu'on était enfant de Dieu. Parce que nous sommes avant tout des habitants de la terre. Puisque toutes nos discussions tournent toujours autour des choses de la terre. Et de cette manière-là, à un moment donné, ça ne tiendra pas. Parce que les choses de la terre ne pourront pas nous satisfaire éternellement. On sera toujours insatisfait. Mais eux, ils persévéraient dans des sujets de prière propres au Seigneur. Et c'est dans cette même façon de faire, dans les maisons, dans l'église, lorsqu'on se retrouve entre amis chrétiens, si on se maintient dans cette vie-là, c'est de cette manière-là qu'on va être unis. Quelquefois, on est en train de chercher le problème chez l'autre, on cherche le défaut chez l'autre, ce n'est pas ça le problème. Tout est dans les Écritures. Si nous acceptons de vivre comme ces chrétiens-là ont vécu, le défaut de ta femme ne te dérangera plus. Le défaut de ton mari ne te dérangera plus. Le défaut du frère ou de la sœur ne te dérangera plus. Parce que tu as toutes les réponses aux problèmes que la terre peut te poser. Toutes les réponses sont dans la Bible. Et en vivant cette vie-là, on voit la conséquence, c'est qu'il se faisait beaucoup de prodiges et des miracles. Dieu voyait leur façon de vivre et il descendait lui-même pour se glorifier. Nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos maisons. Restaurons la communion les uns avec les autres. Comment Dieu va se glorifier dans une maison de querelle? Comment Dieu va se glorifier dans une maison de querelle? Quelquefois, on est là, on cherche, ah mais l'enfant est mal, est têtu, l'enfant, ça ne va pas, l'enfant ceci, l'enfant cela. Mais quelquefois, c'est tout simplement la vie des parents qui a un impact spirituel sur la vie des enfants. Et c'est ce qui fait que les choses n'avancent pas. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester, mais Dieu se manifeste là où il y a l'obéissance. Dieu se manifeste là où il y a l'unité. Parce que Dieu n'a jamais voulu bénir quelqu'un à part pour le bénir. C'est pourquoi dans le psaume 133, il est écrit qu'il est bon, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Pourquoi? Parce que c'est là où l'Éternel envoie la bénédiction et la vie pour l'éternité. Là où Dieu voit l'unité, c'est là où il envoie la bénédiction. Donc le souci de Dieu, ce n'est pas de nous bénir individuellement, puisque nous sommes tous ses enfants. Même si la bénédiction passe par toi, ce que le Seigneur veut, c'est bénir l'ensemble. C'est bénir l'ensemble, mais Dieu veut agir là où il y a la véritable unité. L'unité, ce n'est pas simplement le fait d'être dans le même lieu. Il y a des gens qui ont cohabité longtemps ensemble, uniquement pour des raisons financières. Ce n'est pas parce qu'ils voulaient vivre ensemble. C'est parce que financièrement, c'était plus facile d'être ensemble pour supporter les charges. Mais ce n'est pas du tout parce qu'ils voulaient. Il y a quelquefois des gens, des étudiants qui vivent ensemble, ce n'est pas parce qu'ils avaient le choix. C'est simplement dans sa condition d'étudiant, c'est plus facile de cohabiter pour partager les charges, sinon il ne s'en sort pas. Mais s'il avait le choix, il ne vivrait pas avec tel ou avec tel. Et dans l'église, on retrouve la même chose, bien-aimé. On peut être là ensemble, mais ne pas être dans la véritable unité. Lorsque nous sommes là, nous louons le Seigneur. Gloire à Dieu. Visiblement, on bénit le Seigneur. Mais Dieu, lorsqu'il voit ça, il dit, regarde ces deux-là. Ils se sont insultés ce matin avant de venir au culte. Ils sont là. Regarde les deux autres là. Ça fait une semaine dans la même maison, ils ne se parlent pas. Regarde les deux autres là. Ils se sont disputés au téléphone hier. Et chacun vient là en train de louer, en train de chanter. Mais Dieu voit que tout ça ne tient pas la route. Dieu voit que tout ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester. Mais Dieu se manifeste là où il y a l'unité. Ça ne veut pas dire, bien-aimé, que parce que certains ne sont pas dans la vérité, que Dieu ne se manifestera pas. Ça veut dire que le jour où Dieu se manifeste, c'est à double tranchant. Ça sera toujours à double tranchant. Lorsque le Seigneur reviendra, parce que c'est la plus grande bénédiction qu'on attendra, il y aura des joies, de la joie au ciel. Mais il y aura aussi des pleurs et des grincements dedans. Donc la manifestation de la gloire de Dieu sera bien pour certains, mais sera comme un jugement pour d'autres. Or, la volonté de Dieu, c'est de nous bénir tous ensemble. Nous avons les moyens de marcher dans l'entente. Nous avons les moyens de faire ce que le Seigneur attend de nous. Les choses sont simples, acceptons simplement de nous humilier, de marcher dans l'humilité et d'accepter d'avoir tort si on a tort, car le plus important, c'est d'être avec le Seigneur. Et je dis souvent que notre relation avec les autres démontre aussi la relation que nous avons avec Dieu. Les gens qui sont toujours en guerre avec les autres, ce sont des gens qui ne sont pas en bon accord avec le Seigneur. Et souvent, on veut cacher notre mauvaise entente avec Dieu en faisant croire que le problème, c'est l'autre. Mais le problème, en réalité, ça sera toujours nous. Le problème sera toujours nous. Si nous arrivons à penser comme ça, alors ça sera plus facile de changer les choses. Si tu cherches toujours la faute chez l'autre, mais l'autre ne changera pas ton rythme. Donc ça veut dire que tu risques d'attendre longtemps avant d'être en paix. Non, si tu considères que le problème est chez toi tu peux le régler. Et là tu es rapidement en paix. Parce que devant le Seigneur, qu'est-ce qui va justifier que tu t'es mis en colère? C'est l'autre. Vous pensez que Dieu va nous excuser parce qu'on s'est mis en colère, parce que l'autre nous a embêtés. Vous pensez que la colère va être justifiée devant Dieu parce qu'on m'a embêté. Ça ne tiendra pas. Dieu te dira, je t'ai donné le Saint-Esprit pour que tu la maîtrises. Voilà la raison. Donc c'est pourquoi je dis que le problème, ça sera toujours nous. Même si certains peuvent être à l'origine de nos combats, mais le fait qu'on sorte de la parole ne sera jamais justifié. Donc nous avons les moyens que Dieu nous a donnés pour vivre en paix dans la maison, dans l'église, pour nous maintenir dans l'unité et avancer ensemble dans le projet du Seigneur. Amen. À Jésus-Christ seul soit la gloire.